Manuscrit 112. Le troisième concile européen. Extrait du journal d'Ellen G. White. Bâle, le 25 septembre 1885. Je me suis rendu à la rencontre du matin. Plusieurs prières ont été élevées en français et en anglais. Mon cœur s'est tourné vers Dieu, en prière fervente, pour que le Seigneur nous aide, nous fortifie, nous bénisse et nous fasse prendre conscience de la sainteté et de l'importance de sa mission. J'étais chargé de dire certaines choses simples au début de cette rencontre. J'ai présenté les grandes et solennelles vérités que Dieu nous avait données afin que nous les proclamions au monde. Nous échouerions certainement si nous ne marchions pas dans la lumière. Notre succès et notre prospérité dans l'accomplissement de cette mission solennelle et bonne dépend de ce que nous recherchions les conseils et l'aide quotidien de Dieu. Par son concours divin, ses serviteurs peuvent faire ce qui doit être fait et ne jamais échouer. Quelle que soit la force des puissances des ténèbres qui peuvent s'abattre sur nous, un peut en chasser 1000 et deux peuvent en faire fuir 10 000. L'Esprit de Dieu m'a poussé à leur dire qu'en tant que peuple et ambassadeur de Dieu, nous sommes loin de saisir nos opportunités et de profiter de nos privilèges. En raison de nos fautes, nous sommes condamnés par la parole et surtout par la loi de Dieu. Dieu sonde notre cœur. Personne n'a été favorisé dans la mesure de la grâce accordée à nous qui vivons en ces derniers temps. Si on ne développe pas cette si grande lumière et ses privilèges supérieurs, la condamnation sera proportionnelle à la non-amélioration des talents qui nous ont été donnés. De nombreux témoignages ont clairement montré que certains étaient déterminés à se consacrer entièrement à Dieu. Au cours de la matinée, nous avons eu une conversation avec le frère Daniel Bourdeau. Le pasteur Whitney, le pasteur Lane, William C. White et la femme du frère Bourdeau étaient présents. J'ai été obligé de faire un témoignage de reproche qui n'avait rien d'agréable, car très triste. Que le Seigneur touche par ce témoignage. Je crois que Satan a été repoussé et que le Seigneur accordera la victoire au frère Bourdeau. La conviction par le Saint-Esprit de ses erreurs. Nous avons recherché le Seigneur dans une prière fervente. Nous avons présenté toutes nos difficultés à celui qui ne peut se tromper. Il connaît toutes nos incertitudes et nous savons qu'il nous a entendus et qu'il prendra en main ce cas de douloureuses difficultés. Nous constatons que certains de nos frères viennent à la lumière. Nous nous réjouissons de trouver le pasteur Matheson en d'excellentes dispositions. Ces témoignages le montrent. Il semble être en parfaite harmonie avec cette rencontre et nous soutient autant que possible dans les efforts que nous avons fournis. Gloire au Seigneur. On avait organisé une rencontre uniquement pour les pasteurs au cours de la soirée. Elle a eu lieu et environ 17 personnes étaient présentes, les pasteurs et leurs épouses. Le frère Bourdeau était là aussi. L'Esprit de Dieu reposait sur moi, alors que je priais pour recevoir la lumière et la grâce du ciel. Je me suis saisi des promesses de Dieu par la foi. Son esprit a été répandu sur cette rencontre dans une large mesure. Des cœurs se sont brisés et contrits devant lui. Le frère Bourdeau s'est libéré des chaînes de Satan. Il soumettait sa volonté à Dieu. Le diable avait pensé remporter la victoire sur notre frère, que nous aimions dans le Seigneur, mais a été manifestement vaincu. Tous, sauf un, ont prié avec la plus grande ferveur et beaucoup de larmes ont été versées. La prière du frère Albert Vuillemier était en français, mais nous en avons compris l'esprit. Les anges de Dieu étaient parmi nous. Dieu nous a envoyé lumière et puissance. La prière du frère Matheson était inspirée par le Seigneur et a été particulièrement fervente, offerte avec une grande humilité. J'ai ressenti la paix de Jésus. J'avais porté un lourd fardeau et l'avais à présent confié à celui qui porte nos fardeaux. Je ne pouvais rien faire. Jésus pouvait faire toutes choses et j'ai ressenti sa paix dans mon cœur. Que pouvons-nous faire sans lui? Nos vies ne seraient qu'obscurité et solitude. Il est notre seul soutien. On avait consacré le jour du sabbat au jeûne et à la prière. Une solennité appropriée reposait sur tous ceux qui étaient assemblés. Nous avions l'assurance de la victoire. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Bâle, le 26 septembre 1885. Matinée pluvieuse. La rencontre du matin était fixée à 6 heures. J'avais été tellement préoccupé que j'avais passé du temps en prière. Je n'avais pu dormir beaucoup et m'étais senti incapable d'assister à la rencontre du matin pour les pasteurs. Mais j'ai su que je passerais à côté d'une bénédiction si j'en restais à l'écart. 23 personnes étaient rassemblées dans une petite pièce. J'ai ouvert la rencontre avec une prière et le Seigneur s'est effectivement approché de moi, ainsi que de toutes les personnes présentes. Le frère Bourdeau a alors prié et confessé sa faiblesse de céder aux tentations du diable. Il s'est consacré à nouveau à Dieu, est venu à la lumière et la lumière est entrée dans son cœur. Les prières offertes ont été ferventes et prononcées d'un cœur brisé, dans les larmes. Les bénédictions du Seigneur étaient au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur m'a aidé et fortifié pour m'adresser à mes frères avec beaucoup de larmes. Le caractère pur et saint de notre mission, ainsi que la nécessité de mettre à profit tous les talents que Dieu nous a donnés, étaient devant eux. La nuit précédente, un livre contenant le récit du travail effectué l'année d'avant, tel que Dieu le voyait, avait été ouvert devant moi. En le parcourant, j'avais pris conscience de toutes les failles. Certains avaient occupé les heures consacrées aux visites et à la discussion à des sujets sans importance, les rendant ainsi vaines, du temps qui aurait dû être consacré à un travail intense et passionné pour la mission divine. Comme ce recueil était différent du compte-rendu de certains ouvriers, comme cela avait été insatisfaisant pour eux-mêmes, des opportunités leur avaient été données à chaque instant passé avec leurs semblables. S'ils les avaient vus, ils auraient pu attirer les âmes au Sauveur et semer les graines de la vérité. Mais les opportunités se sont présentées, s'en sont allées, et ils ne les ont ni vues ni saisies. Des paroles inconséquentes ont été prononcées, et ils ont ainsi montré qu'ils n'avaient pas à l'esprit la priorité du message d'avertissement. Ils n'avaient pas à cœur de laisser de leurs lèvres se déverser le reflet de la lumière que Dieu leur avait donnée pour bénir. C'est là l'éducation profitable et véritable pour tous les pasteurs, en parole et en doctrine. Ce recueil répertoriait les tâches non accomplies, des journées de travail passées sans prière. Les nuits arrivaient, mais le bilan était vide. De grandes dépenses avaient été faites, mais avec peu de résultats. D'autres comptes rendus montraient qu'avec moins de dépenses, des ouvriers avaient fait leur travail avec de meilleurs résultats. Celui dont les mains tenaient le livre et dont le regard parcourait chaque ligne du recueil m'a fait des recommandations. Voici ce qu'il m'a dit. Vous ne pouvez vous fier à vos propres capacités humaines ou à votre sagesse. Vous devez unir vos efforts, unifier votre foi et vous consulter. Aucun d'entre vous n'a les capacités pour diriger. Dieu œuvrera pour son peuple s'il le laisse faire. Remettez-lui vos cœurs et vos esprits. D'une certaine façon, vous n'œuvrez pas pour les hommes pour recevoir un salaire. Mais peut-on appeler cela votre salaire? Non. La récompense éternelle sera accordée aux ouvriers fidèles. C'est Jésus qui vous donnera votre salaire. Nous devons cultiver toutes nos facultés en vue de l'éternité, travaillant toujours à chaque fois mieux. Diary, numéro 1, Labors in Switzerland, l'œuvre en Suisse, 25 septembre à 5 octobre 1885, manuscript numéro 378. Aux environs de midi, le 20 octobre, nous sommes arrivés à Christiania et avons été accueillis à la gare par le frère A.B. Hoyen. Rapidement, on nous a emmenés au logement agréable du frère A.B. Hoyen, de son épouse et de leur famille. Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés entre amis anglophones et, bien que nous ayons été reçus et traités avec une grande attention par nos frères et sœurs danois et suédois, nous nous sommes sentis handicapés pour ne pouvoir converser. Nous nous sommes donc trouvés dans l'impossibilité de leur faire tout le bien que nous aurions vraiment voulu. Mais nous sommes encore une fois en Amérique, pour ainsi dire. Christiania, Norvège, le 1er novembre 1885. Nous avons passé un agréable sabbat. J'ai parlé aux personnes du texte de 1 Pierre, 1, versets 13 à 17, dans la salle où la congrégation s'est réunie pour le culte. j'ai eu la liberté de leur présenter l'importance de la véritable piété. Tous ont écouté avec une grande attention. La salle était pleine. Dans l'après-midi, les espèces ont été partagées et nous avons fait l'ablution des pieds. Le soir, le pasteur Matheson a fait un discours. Christiania, le 2 novembre 1885. Dans la matinée du dimanche, dans une salle, je me suis adressé à une grande assemblée. Environ 1400 personnes étaient présentes. J'ai parlé du texte de 1 Jean 3, verset 13. « Le Seigneur m'a permis de faire preuve de clarté en présentant l'amour infini de Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour le monde. » Les allées étaient combles, tous les sièges étaient occupés, des personnes se tenaient même debout, mais beaucoup durent partir parce qu'il n'était plus possible d'entrer. La foule a été parfaitement attentive jusqu'à la fin. Nous espérons que cet effort ne sera pas vain et qu'avec l'aide du Christ, les résultats seront très bons. Le mardi 3 novembre 1885. Nous avons parcouru une trentaine de kilomètres en train pour nous rendre à un rendez-vous à Drammen. Le brouillard était si épais qu'il était impossible d'avoir un aperçu du pays que nous traversions. Après 2 heures de train, nous avons trouvé une salle remplie de personnes rassemblées à l'heure prévue. Le lieu ne pouvait contenir que 700 personnes. L'allée était bondée. Là où on pouvait se tenir debout, il y avait foule et une attention respectueuse était accordée au texte de Jean 3, verset 16. Le 4 novembre 1885. Nous avons quitté Drammen à 8 heures pour nous rendre à Christiania. Il pleuvait, mais le brouillard s'était dissipé et nous pouvions voir la région que le train parcourait. Le paysage était beau. Ce pays est accidenté. Il y a de hautes falaises et des montagnes rocheuses, des lacs et des îles. Cela doit être un lieu agréable à vivre en été. Mercredi soir, j'ai pris la parole devant une salle comble. J'ai parlé du texte de Luc 10, versets 25 à 29. Christiania, le 5 novembre 1885. Le temps est pluvieux et désagréable. Nous avons beaucoup écrit aujourd'hui. Nous sommes allés chez le frère Hansen. La visite a été très plaisante et profitable. Grâce à la présence d'un interprète, j'ai pu parler de certains incidents de nos expériences passées. Nous avons évoqué l'habitude de certaines personnes qui mangent si souvent. J'ai évoqué mon expérience dans le domaine de la réforme sanitaire, ainsi que ma façon de me nourrir depuis que j'ai été éclairé par le ciel. Je leur ai également raconté ce que nous avions vécu dans les premiers instants de notre mission. Christiania, le vendredi 6 novembre 1885. Le temps est pluvieux et désagréable. J'ai pris la parole dans un lieu qui a été loué et ai attiré l'attention d'une grande assemblée sur le texte de 2 Pierre 1, versets 1 à 13. Tous ont écouté avec une attention respectueuse. Christiania, le 7 novembre 1885. C'est une journée brumeuse et pluvieuse. J'aspire à retrouver le soleil, mais nous nous efforcerons de le faire briller avec des conversations joyeuses et agréables, et en ouvrant nos cœurs pour laisser entrer le soleil de justice, de façon à ce que, au milieu des nuages et d'un environnement défavorable, nous puissions rayonner de joie sur les autres parce que le Christ habite dans notre cœur par une foi vivante. Colossiens 1, versets 24 à 29. Le Seigneur m'a donné la liberté et la force de m'adresser à l'Assemblée. Il y a ici en effet un grand travail à accomplir, et si le Seigneur peut faire de moi un instrument pour faire prendre conscience à chacun de son état d'impiété, je me réjouirai en son saint nom. Je leur ai présenté la grande nécessité qu'ont ceux qui prêchent et qui enseignent en parole et en doctrine de veiller sur leur façon d'agir et de, par la parole et l'exemple, élever les âmes vers des points de vue et des pratiques correctes par leurs habitudes et coutumes, et de s'assurer de ne jamais sous-estimer les commandements de Dieu, notamment le 4e commandement, qui préconise l'observation du sabbat. Il y a dans le sabbat du 4e commandement un test. C'est le test de Dieu et non celui des hommes. Il est la ligne de démarcation qui distingue celui qui est fidèle, vrai et qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. Certains de ceux qui disent observer tous ces commandements envoyaient leurs enfants à l'école le sabbat. Ils n'y étaient pas obligés, mais, les écoles refusant d'inscrire leurs enfants s'ils n'étaient pas présents 6 jours sur 7, ils les y envoyaient pour étudier et apprendre un métier. Si, malgré des moyens sages et judicieux, un accord avec les autorités de l'école réservant le privilège d'observer le sabbat du quatrième commandement n'est pas envisageable, il n'y a qu'une seule solution : observer strictement le sabbat du quatrième commandement. Mobilisons spécialement nos efforts pour fonder nos propres écoles. Le pasteur Matheson n'a pas donné à notre peuple un bon exemple. Il a envoyé ses enfants à l'école le sabbat et, pour justifier sa position, il a cité les paroles du Christ. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Matthieu 12, verset 12. Il pourrait invoquer ce même argument pour défendre la raison pour laquelle des hommes travaillent le sabbat. Ils doivent gagner leur vie pour nourrir leurs enfants. Il n'y a pas de ligne déterminant ce qui peut être fait ou non le jour du sabbat. En observant le quatrième commandement de façon aussi licencieuse, ces responsables, par leur exemple, ont encouragé les faux tests définis par les hommes. La question de la tenue vestimentaire était aussi sujette à tester le caractère. Ainsi, leurs traditions ont peu fait cas des commandements de Dieu, mais leurs propres idées et notions liaient des fardeaux lourds et difficiles à porter. Ils s'éloignaient du peuple pour que leur influence ne les atteigne pas. Tous ensemble, ils donnaient une fausse perception de la vérité. Ils ne faisaient que donner une impression qui plaisait à Satan, que les adventistes observant le sabbat n'étaient que des fanatiques et des extrémistes. La précieuse cause du Seigneur n'est pas exaltée, et les incroyants ont le sentiment que c'est la doctrine qui rend leur caractère abrupt, impoli et dénué de charité chrétienne. Le Seigneur désire que les sujets de son royaume représentent le caractère de leur souverain. Ces commandements ne sont pas destinés à être raccourcis pour s'adapter aux idées ou à la convenance des hommes. Dieu a défini des standards moraux dans ses 10 préceptes, fondement de la foi des prophètes et des apôtres. Le sabbat est un grand test, et le Seigneur a fait de précieuses promesses à ceux qui préservent son sabbat de la corruption. Sa sagesse infinie, sa puissance et son amour sont engagés en notre faveur. Les êtres célestes notent nos noms parmi ceux des fidèles et véritables. Être du côté du Seigneur et, par la foi, placer nos intérêts temporels et éternels entre les mains de celui qui règne sur la terre et dans le ciel est sûr. Le comportement de ceux qui vivent ici déplaît à Dieu pour faire peu cas de ses saintes recommandations, luttant pour soumettre sa loi au lieu de se soumettre à sa loi. L'esprit de discorde, de critique et la volonté de faire de sujets secondaires un critère d'appartenance au Christ prévalant alors qu'eux-mêmes font preuve de laxisme et de permission dans l'observation du sabbat. Après avoir parlé avec une grande clarté, j'ai invité ceux qui avaient le sentiment d'être pécheurs, de ne pas être en accord avec Dieu et d'avoir besoin de sa puissance transformatrice à s'avancer. Une cinquantaine de personnes se sont approchées. Nous nous sommes alors agenouillés devant la chaire avec l'assemblée et j'ai prié tandis que le pasteur Matheson traduisait mes paroles. L'Esprit de Dieu a attendri le cœur de certaines personnes parmi nous, mais d'autres sont restées dures et insensibles. Leur cœur est rebelle. Ils ont eu l'opportunité de témoigner, et quelques-uns ont confessé avoir abandonné la vérité et s'être séparés de Dieu. Ils souhaitaient à présent se repentir et revenir au sein du peuple de Dieu. Nous avons essayé de conclure cette rencontre, mais cela semblait impossible. Trois personnes en même temps se sont mises debout et notre rencontre a duré environ 3 heures. Notre œuvre doit encore s'approfondir. Christiania, le 8 novembre 1885. Le temps est toujours aussi couvert et brumeux. Je vais écrire un grand nombre de pages aujourd'hui. Comme prévu, à 17h, j'ai pris la parole dans le grand gymnase militaire. Environ 1700 personnes s'étaient réunies pour entendre parler la femme venue d'Amérique. Le secrétaire de l'association de la tempérance m'a présenté à l'assemblée. Telle une canopée au-dessus de la chaire, il y avait les étoiles et rayures du drapeau américain, NDE, que j'ai beaucoup apprécié car pour moi, être né en Amérique, le pays du courage et de la liberté, est un honneur. J'ai parlé pendant environ 1h20. Le frère A.B. Oyen était mon traducteur. L'auditoire a écouté avec grand intérêt. Je leur ai montré que la Bible regorgeait d'histoires sur la tempérance. Je leur ai aussi dévoilé la part qui a prise le Christ. C'était grâce à lui que l'humanité a eu droit à un deuxième procès depuis la chute d'Adam. il a racheté sa terrible faute en résistant à toutes les tentations du malin. J'ai parlé du Christ du début à la fin lors de cette conférence sur la tempérance. L'évêque de l'église d'État était présent, ainsi qu'un certain nombre des membres du clergé. Les auditeurs étaient issus des classes sociales supérieures. Après avoir terminé mon intervention, j'ai quitté le pupitre et le docteur Nyson a pris ma place, approuvant chacun de mes propos que le frère Abbé Oyen avait traduit pour moi. Il m'a vivement remercié pour mon discours, puis m'a présenté quelques responsables de la tempérance. Beaucoup de personnes sont venues me saluer et me dire « Je suis si reconnaissant de vous avoir entendu ce soir. Je n'avais encore jamais entendu un tel discours sur la tempérance. » En effet, tandis que j'avais parlé, l'assemblée avait été aussi solennelle que si elle assistait à des funérailles. Je n'ai vu aucun sourire et n'ai entendu aucun bruit de pas, car c'était un sujet trop solennel pour qu'on rie ou exprime sa joie. Le docteur Nyson a exprimé le souhait pressant que je prenne à nouveau la parole, mais j'ai eu le sentiment que notre peuple ici a besoin de mon aide, et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Mardi soir, 26 mai 1887, nous sommes partis pour la Prusse, afin de tenir des réunions avec le pasteur Conradi à Vovinkel. Je n'ai ni réussi à manger, ni à m'asseoir très longtemps. William C. White n'a pas pu nous accompagner. La sœur Ings et moi sommes partis seuls, accompagnés d'un jeune homme qui quittait Bâle pour retourner chez lui pour rendre visite à ses parents. Nous avons pris le train à 9h30, le 26 mai, avons eu le compartiment pour nous tout seuls. J'ai bien dormi cette nuit-là. Nous avons changé deux fois de train. Nous avons retrouvé le frère Conradi à Mainz. Il nous a accompagnés pour la suite du voyage. Nous avons changé de train à Cologne, où nous avons dû rester plusieurs heures. Mais j'étais trop affaibli pour visiter quoi que ce soit en dehors de la cathédrale. Nous y sommes entrés. C'est un édifice coûteux et riche qui n'est surpassé que par un seul autre. Il est en construction depuis 600 ans et quelqu'un y travaille constamment. Les travaux ont débuté au XIIIe siècle et elle n'est pas encore terminée. Des ouvriers étaient à l'œuvre à l'intérieur. C'est la ville où l'eau de Cologne est fabriquée. Ici, la gare ressemble à une grande salle à manger. Ce n'est pas pratique pour les voyageurs. Devant chaque table se trouve un sofa. Il se voit donc obligé de fréquenter ce restaurant. Le 27 mai, nous sommes arrivés à Vovinkel aux environs de 15 heures. Nous avons été accueillis par un frère, le pasteur de l'église. Nous avons déjeuné, puis avons parcouru environ 3 km dans la campagne. Nous avons constaté que nos frères vivaient dans un lieu agréable. Ayant subi des pressions de la part des propriétaires, ils se sont préparés aussi sagement que possible pour avoir leur propre petit foyer. Dans des petites maisons vivent pas moins de 3 familles. Un frère possède le bâtiment et le loue à ceux qui observent le sabbat. Le frère Conradi a pris la parole le vendredi soir. J'ai parlé le sabbat matin, 28 mai, à 10 heures, en m'appuyant sur la prière du Christ pour que les disciples soient un comme il était un avec le Père. Ensuite, le frère Conradi m'a dit qu'il n'avait jamais organisé de réunion de partage. Il s'était rencontré pour prier, mais pas pour témoigner. Nous avons pensé que le moment était venu et la réunion s'est bien passée. Pour un début, elle a duré 3 heures. On a insisté pour que je prenne à nouveau la parole le soir, à 20 heures, ce que j'ai fait. J'ai évoqué la nécessité de faire des efforts spéciaux pour l'harmonie, ainsi que l'importance pour l'Église de se concentrer sur la vérité, le Sauveur et la vie future. En vivant et marchant dans la vérité, ils ne s'emploieront pas à parler des erreurs et des fautes des uns et des autres. Quand j'ai terminé de parler, le frère Conradi a poursuivi la rencontre jusqu'à minuit. Vision à Vovinkel, le 28 mai 1887. La nuit dernière, 27 mai, j'ai rêvé qu'un petit groupe de personnes s'était rassemblé pour une rencontre spirituelle. Quelqu'un était entré et s'était assis dans un coin sombre où il n'attirerait pas l'attention. L'atmosphère était oppressante. L'esprit du Seigneur était lié. Le pasteur de l'église faisait quelques remarques. Il semblait essayer de blesser quelqu'un. J'ai constaté de la tristesse sur le visage de l'étranger. Il devenait manifeste que l'amour de Jésus ne demeurait pas dans le cœur de ceux qui affirmaient croire en la vérité. L'Esprit du Christ était par conséquent absent et il régnait un grand besoin, tant dans les pensées et les sentiments, de l'amour de Dieu et de l'amour les uns pour les autres. Cette réunion n'a été un rafraîchissement pour personne. Alors que la rencontre était sur le point de prendre fin, l'étranger s'était levé et, la voix remplie de tristesse et de larmes, il avait déclaré qu'ils avaient grand besoin dans leur âme et dans leur vécu de cet amour de Jésus qui était largement présent dans chaque cœur que le Christ a choisi pour demeure. Tout cœur renouvelé par l'Esprit de Dieu n'aimera pas seulement Dieu, mais aussi ses semblables. Et, si ce frère faisait des erreurs, s'il s'égarait, on devrait l'aborder selon l'Évangile. Il faut suivre chaque étape selon les directives données dans la parole de Dieu. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté, déclara-t-il. Galates 6, verset 1. Ne vous souvenez-vous pas de la prière du Christ, juste avant de quitter ses disciples pour sa lutte longue et déchirante de Gethsémané, avant d'être trahi, jugé et crucifié? Voir Jean 17, versets 15 à 23. Avez-vous oublié les souffrances de votre Seigneur? Avez-vous oublié la valeur qu'il a attribuée à l'homme qu'il a racheté de son propre sang? Vous semblez vouloir vous blesser et vous contusionner les uns les autres. Est-ce là l'exemple que Jésus vous a donné? Où est son attitude? Êtes-vous satisfait de si peu d'amour, de persévérance et de patience vis-à-vis de vos frères? Avez-vous oublié les paroles du Christ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voir Jean 13, versets 34-35. Cité de Jean 14 à 21. Vous ne cultivez ni l'amour pour Dieu, ni l'amour pour vos frères. Faites attention à la façon dont vous abordez le sang du Christ. Il est important de dénoncer de façon claire et fidèle les mauvaises œuvres, mais que celui qui se charge de cette tâche sache qu'il n'est pas éloigné du Christ en raison de ses mauvaises œuvres. Il doit être spirituel et restaurer l'unité de l'esprit d'humilité. S'il n'est pas animé de cet esprit, il n'a pas le devoir de reprendre ou de corriger ses frères, car il créerait un problème supplémentaire au lieu d'en régler un. Le Christ a accepté de recouvrir sa divinité d'humanité et est venu en notre monde sous l'apparence d'un homme. Il est la source vivante de la vie, la manifestation vivante de la religion pure dans notre monde. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un chemin, qu'une vérité et qu'une vie, et ceux qui croient en lui reçoivent la puissance de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus dans le monde, mais sont choisis hors du monde. Le monde ne les connaît pas, parce qu'il n'a pas connu le Christ. L'esprit et le caractère du Christ se manifestent chez les élus de Dieu par leur conversation céleste, leur douceur et leur conduite irréprochable. De même que beaucoup sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Ils sont unis au Christ comme les sarments sont unis à la vigne vivante. Ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ils sont des exemples vivants du véritable christianisme en ce monde. Ils sont appelés chrétiens, car ils sont semblables au Christ, et parce que le Christ est en eux. En vérité, ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Le concours de l'esprit et les paroles de vie éternelle sont leur sagesse et leur force. Ils sont conduits dans toute la vérité, parce qu'ils sont bien disposés et obéissants. Ce qui distingue le caractère et le comportement des chrétiens est le principe de l'amour saint du Christ dont l'influence purifiante œuvre dans les cœurs. Le véritable chrétien accomplira les œuvres du Christ en exprimant en action son amour pour les autres. Avec ce principe de vie vivant, durable et actif, et ce caractère, personne ne peut ressembler au monde. Si vous connaissez le caractère et les œuvres du Christ, vous connaîtrez les dispositions et la conduite des chrétiens. Le Christ détestait le mal et le péché, au point que ses lèvres et son exemple n'avaient de cesse de les dénoncer. Alors qu'il détestait le mal, il aimait le pécheur. Notre Seigneur et Sauveur aime toutes les créatures. Il a mis de côté sa domination, ses richesses et sa gloire pour venir à notre recherche, nous qui sommes pécheurs, égarés et malheureux, afin qu'il puisse nous rendre semblables à lui. Il s'est humilié et a pris sur lui notre nature afin de pouvoir nous enseigner à être purs, libérés de toute impureté due au péché, et à avoir un bon caractère pour que nous puissions le suivre dans le ciel. Il a souffert bien plus que quiconque parmi nous ne sera jamais amené à souffrir. Il a tout donné pour nous. Qu'avez-vous donné à Jésus pour ce grand amour? Avez-vous fait de même envers vos frères? Avez-vous imité son exemple de patience et d'altruisme? Vous ne pouvez égaler votre modèle, mais vous pouvez lui ressembler. Vous avez reçu la connaissance sacrée de la vérité, non pour que cela soit un sujet de discorde et pour que vous deveniez des étrangers les uns pour les autres, mais pour que vous puissiez être pour le monde des porteurs de lumière. Quand il reviendra, le Maître vous évaluera selon vos capacités. Qu'avez-vous fait pour convaincre les hommes d'accepter la précieuse vérité? Tout autour de vous se trouvent des gens pour qui le Christ est mort afin qu'ils puissent être rendus purs, saints et sans péché. Votre travail de chrétien a-t-il porté du fruit et fait du bien? Avez-vous, avec douceur et foi, essayé de semer dans les cœurs la semence de la vérité pour que des fruits de justice soient produits? Vous auriez été tellement plus fort en tant que fils et fille de Dieu si vous aviez aimé Dieu par-dessus tout et aimé vos voisins comme vous-même. Vous auriez été tellement plus élevé si vous aviez cherché à découvrir toujours plus la vérité et reçu toujours plus de lumière pour briller en œuvres bonnes sur tous ceux qui vous entourent. Vos œuvres ne plaisent pas à Dieu, mais à l'ennemi. Vous avez des leçons à apprendre à l'école du Christ avant d'être prêt pour le ciel. Votre moi, vos voix et vos acerbes traits de caractère vous rendent incapables de composer avec les esprits et les cœurs. Vous oppressez quand vous devriez être aimable. Vos paroles et vos actions sont des canaux par lesquels les principes purs de la vérité et de la sainteté doivent être communiqués au monde. Ainsi, si vous ne cultivez pas votre piété personnelle, vous ne pouvez être la lumière du monde. Si vous vous autorisez à être despotique, accusateur, juge de vos frères et cherchez à corriger ce qu'ils font de mal avec un cœur qui n'est pas sanctifié et un caractère impur, vous faites un travail inapproprié et éloignez les âmes du Christ. À moins qu'ils ne demeurent en Christ, les croyants seront une source de faiblesse les uns pour les autres, au lieu d'être une source de force et de courage. Aucune édification saine n'est possible, tout principe lié, que si la grâce transformatrice du Christ ne se ressent dans vos cœurs et vos caractères. Tous ceux qui ont une connaissance de Jésus-Christ, et notamment les pasteurs d'église, ne doivent pas négligemment permettre aux membres un comportement répréhensible et donc laisser le mal et le péché se renforcer dans l'église, pensant que c'est ainsi qu'on fait preuve d'amour. Dieu désire que nous veillions avec fidélité. D'une main, saisissez la main de Dieu, et de l'autre, avec amour, saisissez les égarés et les pécheurs, et attirez-les à Jésus. Priez avec eux, pleurez avec eux, ayez compassion pour leur âme, aimez-les et ne les abandonnez jamais. C'est l'amour que Jésus vous a exprimé. Vous devez toujours vous efforcer pour l'unité, la patience et l'amour. Ne vous éloignez jamais, mais soyez solidaires, liant les cœurs les uns aux autres, et faites monter des supplications dans l'esprit. Alors, la puissance de Dieu œuvrera parmi vous, et de nombreuses âmes découvriront la vérité grâce à votre influence. L'étranger se rassit, et le soleil, jusqu'alors dissimulé au regard, rayonna et brilla sur lui. Quelle révélation ! En un instant, tous comprirent qui leur avait parlé, et se dirent les uns aux autres : « C'est Jésus ! C'est Jésus !» Puis ils confessèrent leurs péchés et se confessèrent les uns aux autres. Les cœurs semblant brisés, il y avait des larmes, puis de la joie, et la pièce fut remplie de la douce lumière du ciel. La voix mélodieuse de Jésus dit « Que la paix soit avec vous » Jean 20, verset 21. Et sa paix fut… Dimanche 29 mai. Le matin, le frère Conradi a pris la parole sur le travail missionnaire. À 15h, je me suis adressé aux personnes présentes à propos de 1 Jean 3, verset 1 à 3. Je me sentais libre, malgré ma faiblesse due au manque de nourriture. Mon estomac ne supportait en effet aucun aliment. Le frère Conradi a œuvré auprès d'elle avec fidélité, et je crois avec grand succès. Beaucoup ont trouvé un apaisement dans leurs difficultés, excepté un frère qui a quitté la rencontre. Le frère Conradi l'a suivi et lui a parlé jusqu'à 2 heures du matin, avec une bonne perspective des difficultés guéries. Nous avons eu l'occasion de voir dans quel travail nos frères et sœurs étaient engagés pour gagner leur vie. Le frère a une femme et 4 enfants. Il tisse un magnifique tissu qu'il vend 8,80 $ le mètre. Ainsi, il gagne environ 7 ou 8 francs pour son travail et ne peut tisser que 3/4 de mètre par jour. Les sœurs tissent des mouchoirs de soie. Le lundi 30 mai, nous avons quitté Vohwinkel à 7h du matin pour Gladbach. Nous avions rendez-vous pour prendre la parole lundi soir. Nous sommes arrivés à Gladbach vers 10h. Des amis nous attendaient à la gare. Nous nous sommes rendus chez la sœur Demeur, qui possède le bâtiment où ils vivent. Sa fille vit avec elle. On nous a montré une jolie chambre que nous occuperions pendant notre séjour. Le petit déjeuner était prêt, mais j'ai à peine pu y goûter car j'avais encore mal à l'estomac. Il était essentiellement composé de cake, de pain et de café. Nous avons été invités à dîner chez le fils de la sœur Demeur. Une sœur du frère Demeur nous y a emmenés. Nous n'avions parcouru qu'une courte distance quand la voiture a vacillé d'un côté et heurté la courbure du trottoir. Les courroies s'étaient décrochées avec le cheval. Nous sommes rapidement sortis. En fait, quelqu'un avait oublié de mettre les aisses qui accrochaient les courroies à la voiture. Aucun dégât n'a été constaté et nous avons repris notre route sans plus d'encombre. La femme du frère Demeur nous attendait à la porte. C'est une jolie jeune femme avec 3 petits-enfants. Elle est la fille du frère Lindermann, un homme qui observe le sabbat depuis 25 ou 30 ans. Il est toujours en vie. Il a 83 ans et est le 2e de sa fratrie. C'est par son influence que la famille Demeur a accepté le sabbat. Les 3 frères Demeur croient en la vérité. Ils travaillent pour une grande entreprise qui fabrique des vêtements et des produits en coton. C'est un grand établissement et une affaire importante. Le frère vit dans cet établissement que nous avons visité. Il a un grand terrain avec des arbres et des fleurs. Il est très bien situé. Il a été le dernier à accepter le sabbat. Un autre frère, l'aîné des 3, est dans un état critique en raison d'un cancer de la gorge. C'est une grande souffrance pour sa famille, dont aucun membre n'observe le sabbat. Le 30 mai était un jour férié, le 2e jour de la Pentecôte, si bien que l'usine était fermée. Des drapeaux colorés flottaient sur les bâtiments et les foules se rendaient aux différents services religieux. Nous nous sommes rendus chez la sœur Demeur à 17h. La pièce, qui n'était pas grande, était remplie. J'ai parlé au sujet du texte de Jean 15, versets 1 à 3. Le frère Conradi a traduit mes paroles. Je me suis senti très à l'aise. J'ai reçu le concours spécial du Seigneur, sans qui je n'aurais pas pu tenir sur mes pieds. J'ai rendu un témoignage très simple. Les personnes rassemblées étaient intelligentes. Le frère Conradi a mentionné la requête d'un frère affligé qui voulait que les enfants de Dieu prient pour lui. Nous avons prié pour ce frère malade et sur le point de mourir. Le frère Conradi s'est adressé quelques instants à l'assemblée. Le 31 mai, je me suis bien reposé pendant la nuit, mais je ne parviens toujours pas à manger. Nous sommes partis vers 11h en direction de Hambourg. Nous avons changé de voiture à Düsseldorf. Nous avons été obligés de patienter pendant 2 heures à la gare, ce qui a été l'occasion pour nous d'étudier la nature humaine et d'être les témoins de la vanité de ceux qui allaient et venaient. Cela a suscité en moi de douloureuses pensées. 2 jeunes femmes sont entrées dans les toilettes, se sont regardées dans le miroir et ont cherché à améliorer autant que possible leur apparence, s'exhibant devant le miroir, tournaient sur elles-mêmes, puis appliquant de la poudre sur leur visage. « Oh, ai-je pensé, si elles avaient la moitié de cette volonté pour mettre en avant la beauté de caractère selon le grand critère de la loi de Dieu, son miroir, son détecteur de défauts de caractère, elles feraient preuve de bien moins de vanité envers leur apparence extérieure et s'intéresseraient bien plus aux ornements intérieurs, la perfection du caractère et la possession de l'humilité du Christ. » À 14h, nous nous sommes à nouveau installés dans le compartiment réservé aux femmes, avec tout le confort. Nous étions heureuses d'être seules et avons pu nous reposer. J'étais malade et fatiguée, toujours incapable de manger. Nous n'avons pas eu d'autres changements avant d'atteindre Altona, à environ 30 minutes de Hambourg. Nous avons assisté à une scène particulière. Un bateau sur l'eau ou un entrepôt au bord de l'eau était en feu. Certains ont pensé que du pétrole avait dû exploser. Les flammes étaient très hautes et la lumière intense avec une portée importante. Nous avons effectué un dernier changement à Altona, sans autre incident après cela. Manuscrit entier. Journal. Visite to Germany. Visite en Allemagne. 26 à 31 mai 1887. Une rencontre marquée par le progrès. Dernier concile européen auquel a assisté Ellen White, à Moss, en Norvège, en 1887. Extrait du journal d'Ellen G. White. Vers midi, le jeudi 9 juin 1887, nous avons atteint notre destination, Moss, en Norvège, un endroit magnifique. Les tentes étaient plantées dans une pinède. Une maison avait été louée pour les personnes venues de loin et ne pouvant dormir sur le sol. Elle comportait plusieurs chambres confortables. Nous nous trouvons dans une maison construite sur un terrain surélevé, donnant sur l'eau. Le paysage est agréable. Tout est confortable, et nous nous attendons à beaucoup apprécier notre séjour ici. C'est le premier camp meeting encore jamais organisé en Europe, et l'endroit a suscité un grand émoi. Nous espérons que cette rencontre produira une telle impression sur les esprits et que nous pourrons organiser d'autres camps meeting après celui-ci, non seulement en Norvège, mais aussi en Suède et au Danemark. Cela permettra aux personnes que nous n'avons pu atteindre auparavant, de façon ordinaire, de découvrir plus directement la vérité. Moss, Norvège, le vendredi 10 juin 1887. Je me suis levé à 4h du matin. Après avoir longuement prié, j'ai commencé à écrire. C'est une belle journée, bien qu'il y ait quelques nuages et qu'il ne fasse pas très chaud. Je me suis reposé de 22h à 3h du matin. Je n'ai pu dormir davantage. Le soleil brille depuis une demi-heure. Nous avons retrouvé nos amis d'Amérique et sommes heureux de les revoir. De nombreuses personnes vont assister à la rencontre. Moss, Norvège, le sabbat 11 juin 1887. J'ai passé une nuit sans sommeil. Je me sens très faible. On m'a demandé de prendre la parole lors de l'école du sabbat, traduite par le frère Olsen. Il est agréable de voir tant de personnes à l'école du sabbat. Tous les enfants semblent vifs et intéressés. Le frère Matheson a prêché dans la matinée devant une grande assemblée. Ma réunion était fixée à 14h30. J'ai essayé d'aller droit au but et ai invité ceux qui désiraient se donner entièrement au Seigneur, ceux qui étaient retombés dans le péché et ceux qui désiraient se confier au Seigneur pour la première fois à s'approcher. La grande tente était pleine et il était difficile de libérer des places assises pour les nombreuses personnes qui s'avançaient. Elles ont eu l'occasion d'exprimer leurs sentiments et de témoigner, parfois dans les pleurs. Un temps de prière a suivi. Puis, il y a eu des rencontres dans les tentes, ainsi que des réunions pour les enfants, ce qui a été une très bonne chose. Moss, Norvège, le dimanche 12 juin 1887. C'est une autre belle journée. Beaucoup de personnes de l'extérieur sont venues aujourd'hui. Il y avait foule à l'intérieur et à l'extérieur de la tente. Le pasteur Wagoner a parlé de la loi et de l'évangile, et ses paroles ont suscité un grand intérêt. Le pasteur Matheson a traduit ses propos. Dans l'après-midi, à 14h30, je me suis adressé aux foules sous la tente, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dehors. J'ai abordé l'ascension et le retour du Christ. J'ai été profondément ému en parlant. Bien qu'un grand nombre de personnes étaient debout, faute de siège, il n'y avait ni bruit, ni confusion. Tout le monde écoutait avec respect les paroles prononcées. Dans tout le camp meeting en Amérique, je n'avais jamais vu d'assemblée aussi intelligente. Le Seigneur m'a donné la force de parler dans la puissance et la démonstration de l'Esprit. Le pasteur Matheson m'a dit qu'il n'avait jamais été autant béni qu'en traduisant mes paroles cet après-midi. Beaucoup d'incroyants dans l'assemblée ont été touchés aux larmes. Le frère Matheson a pris la parole à 17h et l'assemblée était nombreuse, plus que dans la journée. Le prêtre de Moss avait publié un article dans le journal en y faisant des déclarations concernant notre foi et ridiculisant nos doctrines. Il a voulu faire de fausses déclarations sur nous. Le frère Matheson a évoqué ces articles de façon pertinente. L'un de nos frères américains a pris la parole au cours de la soirée, concluant ainsi la journée la plus importante de notre camp meeting. Moss, Norvège, le lundi 13 juin 1887. Nous sommes bénis d'une autre belle journée. Il fait plus chaud aujourd'hui. nous avons appris que la rencontre de dimanche a suscité un grand intérêt. On atteste que les bénédictions du Seigneur ont reposé sur le camp tôt le matin jusqu'au soir. Il est merveilleux de constater que les personnes qui assistent à cette rencontre soient si disciplinées. Et les personnes extérieures sont stupéfaites du fait que nos réunions soient exemptes de démonstrations bruyantes et de toute excitation extrême qui caractérise tant de campagnes de réveil. Nous devons reconnaître que ce camp meeting a été un succès. La nouvelle va se répandre partout dans ces royaumes, en Suède, en Norvège et au Danemark. Cela ouvrira la voie à d'autres camp meetings ailleurs. Beaucoup étaient venus à celui-ci avec crainte et tremblement, pensant courir un risque en vivant sous des tentes. Mais en voyant les agencements, des poêles sous les tentes en cas de temps froid ou pluvieux, leur peur avait disparu. Conquis par la beauté et le parfum de la pinède, ainsi que par la propreté et le confort des tentes, ils ont affirmé que, s'ils avaient su, ils se seraient eux-mêmes préparés à occuper une tente. La peur et l'inquiétude qu'avait suscité ce camp meeting ayant disparu, la voie était ouverte à d'autres camp meetings en cette région. La journée a été essentiellement consacrée aux réunions administratives. Le pasteur Haskell a prêché dans l'après-midi. Les choses ont beaucoup avancé par rapport aux précédentes réunions en ces royaumes. Nos frères de Norvège n'avaient jusqu'alors pas encore totalement accepté le système de la dîme. Certains se sont opposés à cette particularité dans notre travail, affirmant que cela n'était pas exigé d'eux. Mais, quand il leur a été montré que c'était prévu dans la Bible, ordonné par Dieu depuis le début, qu'il avait déjà une église au temps de Noé et d'Abraham, et qu'il incombait aux croyants de tous âges du monde entier de faire avancer sa cause sur la terre, de faire comprendre aux hommes que Dieu était l'auteur de toute bénédiction, qu'il souhaitait qu'on lui restitue en dîmes et offrandes une partie des dons accordés, ils ont vu cette question sous une nouvelle lumière. La résolution de ne pas être négligent en cela, l'ordre de Dieu, a été voté à l'unanimité. Il a été précisé que nul ne pouvait forcer qui que ce soit à payer la dîme. Dieu n'y contraint pas plus l'homme qu'il ne l'oblige à observer le sabbat. C'était le sabbat de Dieu, son temps saint, et qui devait être considéré comme tel par l'homme. Mais celui-ci doit obéir volontairement et à la fois observer le sabbat et ne pas voler Dieu en s'appropriant ce temps sacré ou en dépensant une partie des dîmes et des offrandes que le Seigneur a demandé que nous lui rendions. Moss, Norvège, le mardi 14 juin 1887. Une autre journée magnifique. Il est 15h et le soleil s'invite sans réserve par la fenêtre de ma chambre. Aujourd'hui, la sœur Ings se rend, en compagnie d'autres personnes, à Christiania. Le retour est prévu ce soir. Depuis maintenant 4 semaines, je me sens mieux. Je loue le Seigneur pour ses attentions qui me viennent de Dieu. Les participants du camp meeting rentrent maintenant chez eux et le comité administratif, ainsi que le concile, commencent aujourd'hui. Le frère Sands Lane est arrivé hier matin. Ce matin, à 9h, je me suis rendu au concile, le 5e concile européen qui s'est tenu du 14 au 21 juin, et écouté les témoignages concernant le colportage et le porte-à-porte. Le pasteur Matheson a relaté une merveilleuse expérience dans son école, l'hiver dernier, lors de la formation des colporteurs à la lecture biblique. Les frères Kondradi, Hendrickson, Olsen et Lane ont évoqué quelques anecdotes de cette œuvre. J'ai été la dernière à témoigner et le Seigneur s'est posé sur moi, alors que je tentais de présenter ses bontés envers moi, ainsi que la grâce et la puissance qu'il avait déversée en me donnant la force de témoigner sur les lieux que nous avions visités depuis notre départ de Bâle. Mon cœur s'est brisé devant le Seigneur à la vue de sa force et de sa présence qu'il m'avait accordée. Dans l'après-midi, j'ai à nouveau parlé de notre mission, de son ampleur et des raisons pour lesquelles nous devions croire que le Seigneur nous précéderait et nous accorderait son esprit et sa puissance dans une large mesure si nous marchions humblement devant lui, dépendions entièrement de lui et donnions gloire à son saint nom pour tout ce qui était accompli. Moss, Norvège, le 15 juin 1887. Dieu nous accorde à nouveau une matinée belle et claire. Les oiseaux font retentir leur chant de louange à leur Créateur et nos cœurs sont remplis de louanges et d'amour pour sa grande bonté et sa bienveillance à l'égard des fils des hommes. Hier, la sœur Inks a passé la journée à Christiania. J'ai attendu son retour et le bateau n'est pas arrivé avant 22h30. Je ne me suis endormi qu'à minuit. Je me suis rendu au concile et ai été vivement intéressé. J'ai pu évoquer la possibilité d'accomplir un travail bien plus important que ce que nous avons fait jusqu'à présent et ai essayé de faire comprendre à nos frères que nous aurions pu faire bien plus s'ils s'étaient donné plus de peine, même au prix de grandes dépenses, pour former les étudiants avant de les envoyer travailler sur le champ de travail. Ils ont été envoyés et ont éprouvé leurs dons sans avoir pu passer du temps avec des travailleurs expérimentés qui auraient pu les aider et les instruire. Au lieu de cela, ils sont allés seuls et n'ont pu acquérir des habitudes sérieuses. Ils n'ont pas grandi et n'ont pas développé toutes les capacités qui leur auraient permis de devenir des hommes selon les Écritures. Ils avaient des connaissances et pouvaient prêcher sur certains sujets, mais, quand on leur demandait de parler de questions relatives aux prophéties, ils répondaient qu'ils ne pouvaient s'exprimer pour ne pas avoir étudié le sujet. À présent, de tels prédicateurs ne peuvent pleinement exercer leur ministère. Ils sont déficients. Si on ne leur avait pas permis de travailler sur le terrain avant d'avoir acquis les aptitudes requises pour ce travail, ils se seraient trouvés là où ils auraient pu croître et être encouragés. Mais ils n'avaient aucune expérience des meilleures méthodes de travail et ont amené très peu d'âmes à la vérité. La fédération s'est lassée de lever des fonds car on voyait peu de résultats, et cette réduction des salaires a découragé certains qui, avec une charge de travail appropriée, auraient pourtant pu devenir de bons ouvriers. Démoralisés, ils ont quitté la mission pour faire autre chose. Ces rencontres ont un intérêt particulier et béniront tous ceux qui y assistent. Des sujets importants sont amenés et étudiés, et nous croyons que tout cela est positif. Moss, Norvège, le jeudi 16 juin 1887. Je me suis levé ce matin à 4 heures. Je me suis bien reposé pendant la nuit. Les oiseaux chantent, le temps semble être à la pluie, mais il est doux, et je suis rempli de reconnaissance, car Dieu préserve mes forces. J'aspire à vivre près de Jésus, et désire faire de lui mon conseiller, mon soutien et mon tout en tout. Nous avons eu un sujet important à traiter au concile d'aujourd'hui, la formation des hommes au ministère avant de leur attribuer le diplôme. Un travail important les attend et, pour garantir leur départ, on leur permettait d'éprouver leurs dons sans être correctement préparés, que ce soit à l'école académique ou dans la connaissance de la Bible. Il est d'abord nécessaire d'évaluer les connaissances qu'a chaque étudiant des Écritures avant d'être envoyé sur le terrain pour enseigner d'autres personnes. Ceci n'a pas été fait jusqu'à présent. Beaucoup ont donc effectué un travail très infructueux et n'ont pu faire un rapport de réussite. Ils se sont découragés et ont découragé la fédération qui a jugé que ce temps et ce travail ne méritaient pas d'être autant rémunérés. Et cela les a encore plus démoralisés et a dissuadé beaucoup de personnes de s'engager dans ce travail, alors qu'avec une formation et un enseignement adéquats, ils auraient fait de bons ouvriers et des pasteurs compétents. J'ai également parlé de vigilance quant à la tenue vestimentaire de ceux qui viennent d'Amérique et qui retournent en Amérique. Moss, Norvège, le vendredi 17 juin 1887. Je me suis levé à 3 heures. Le soleil resplendit par mes fenêtres aujourd'hui. Nous quittons nos frères de la mission britannique et ceux qui sont en route pour l'Afrique pour devenir des missionnaires en ce champ lointain. J'ai assisté à la rencontre du matin. J'ai pris la parole un court moment sur la pertinence de la venue du frère Starr en Europe. J'ai rendu visite au propriétaire des lieux, M. Erickson, et sa famille. Je n'ai pas pu rester très longtemps, mais c'était un entretien agréable. Il m'a gentiment et généreusement proposé de laisser la gouvernante de ses enfants, qu'il avait adoptée, prendre son attelage afin de nous conduire à travers l'île pour voir les lieux les plus intéressants. Nous sommes ensuite rentrés et avons pris congé de nos frères missionnaires, pensant peut-être ne plus jamais revoir en ce monde ceux qui se rendent aux champs missionnaires si éloignés d'Afrique. Que Dieu les accompagne. C'est notre fervente prière.
Sabbat matin 18 juin 1887. Le pasteur Matheson a prêché ce matin-là. L'après-midi, j'ai pris la parole sur Galates 6, versets 7-8. Nous avons eu une rencontre solennelle. Je les ai appelés à s'avancer pour prier et, avec solennité et ferveur, nous avons recherché le Seigneur. Ensuite, plusieurs ont fait des témoignages excellents et profonds. Après la réunion, j'ai rencontré le frère Ottosen. Les frères Matheson et Olsen étaient avec moi. Avant la fin de notre discussion, la sœur Olsen m'a dit que la propriétaire de la maison souhaitait me parler. Elle était venue de la ville où elle tient un hôtel et pensait que j'allais prendre la parole à 17 heures. Elle était très déçue, mais nous avons passé un bon moment. Je lui ai donné Life of Christ, la vie du Christ, en danois. Elle m'a demandé de prier pour elle, pour voir la lumière, ainsi que toute la vérité. Moss, Norvège, le 19 juin 1887. Je me suis levé à 4 heures et il était évident que j'avais respiré un air malsain toute la nuit. Après le petit déjeuner, la sœur Ings et moi sommes allés marcher hors du campement. Nous avons trouvé un coin tranquille et avons étendu notre fourrure et rédigé une lettre importante de 10 pages destinée aux missionnaires se rendant en Afrique. Le pasteur Haskell a pris la parole le matin. L'après-midi, j'ai abordé le sujet de la tempérance devant une assemblée intéressée. Christiania, Norvège, le 20 juin 1887. Nous avons quitté Moss hier matin. On nous a emmenés en voiture jusqu'au train et nous avons mis 3 heures pour arriver jusqu'ici. Je me suis allongé et ai dormi un peu, mais je me sens très lasse. Nous sommes allés en voiture chez le frère Ole A. Olsen et avons eu l'opportunité belle et appropriée de nous reposer. J'ai pu m'asseoir, mais pour quelques instants. Il semblait que j'étais au bord de l'épuisement total. Je n'ai pas d'appétit. Nous avons quitté Willy, le pasteur Conradi, le pasteur Whitney, le pasteur Haskell et le pasteur Wagoner aux alentours de 9 heures. Ils ont pris le train pour des destinations différentes. Le frère Haskell se rend en Angleterre. Le reste du groupe s'en va à Stuttgart, en Allemagne, et visiter d'autres villes allemandes. Le frère Ole A. Olsen, le frère Ings, sa femme et moi, allons à Stockholm, en Suède. Mardi 29 juin 1887. Nous avons pris le bateau à vapeur Princesse Elisabeth à 10 heures pour traverser la Manche, en direction de l'Angleterre. C'est un grand bateau. La traversée a été agréable. Nous n'avons même pas eu le mal de mer. Vers 6 heures, nous avons quitté le bateau pour prendre le train, puis avons mangé notre casse-croûte. Nous sommes arrivés à Londres vers 8 heures. Nous avons effectué 9 km en voiture à travers la ville et avons dû attendre une heure. Aux alentours de 9 heures, nous avons pris place à bord de la 3e classe du train pour nous rendre à Kettering, où nous sommes arrivés à 11h30. Le frère Dorland nous attendait et il nous a emmenés chez lui, où nous avons été accueillis par la sœur Dorland. Kettering, Angleterre, le 30 juin 1887. Nous avons peu dormi la nuit dernière. Nous avons souffert de la chaleur. Le temps est agréable en Angleterre, à cette période de l'année. Je me suis levé à 4 heures, mais étais éveillé depuis 3 heures. J'ai commencé à écrire. J'ai corrigé plusieurs discours matinaux faits à Bâle. Nous avons appris que ceux qui avaient quitté Christiania, le pasteur frère Wagoner, William C. White, le frère Whitney, le pasteur Haskell, étaient tous malades. La traversée de la mer Baltique avait été très difficile. Nous sommes sortis faire des courses sur la grande place du marché. Je me suis acheté des chaussures. Kettering, Angleterre, le 2 juillet 1887. Sabbat matin. Il fait très chaud. Je n'étais plus parvenu à dormir depuis 3h30. J'ai commencé à écrire. Je ressens profondément le besoin du soutien particulier du Seigneur pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Sans moi, « vous ne pouvez rien faire, dit le Christ. » Jean 15, verset 5. « Que nous sommes faibles, par nos propres forces finies. Nous voulons travailler pour le Maître. Je veux plaire à Jésus, qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Mon âme soupire désespérément après la paix douce et constante qui vient de lui. Je veux que Jésus soit sans cesse dans mes pensées. » À 10 heures, la voiture est venue nous chercher pour nous emmener sur le lieu de la rencontre. C'est une salle de bonne taille. Ses murs sont en métal et le soleil qui tape a fait de la pièce un véritable four. Une 50aine de personnes se sont rassemblées. Je leur ai parlé du texte de Hébreux 12, versets 1 à 4. Malgré la grosse chaleur, le Seigneur m'a permis de parler avec aisance. À midi, la voiture était à la porte et nous sommes rentrés, avec au cœur un désir profond et sincère
pour les personnes à qui nous nous sommes adressés. Nous savions que beaucoup devaient passer par une véritable conversion à Dieu, car autrement, elles ne pourraient garder la vérité, ni résister à la tentation. À 15h, nous avons de nouveau parlé à l'église de Kettering sur Matthieu 22, versets 11 à 14. C'est un sujet des plus solennels, et le Seigneur a mis sur mon cœur la terrible situation de ceux que Jésus trouvera sans vêtements de noces le jour où il viendra voir ses invités. Je pense que beaucoup ont été touchés. Après cette présentation, il y a eu une rencontre d'échange et de nombreux témoignages ont été rendus, mais j'ai senti que des âmes étaient en danger. Certaines étaient indécises, et j'ai supplié tous ceux qui n'étaient pas vraiment du côté du Seigneur de prendre en ce jour une décision, celle de briser les chaînes des puissances de Satan et d'appartenir totalement au Seigneur. Je leur ai donné la possibilité de s'avancer. Un petit nombre de personnes se sont approchées. Parmi elles se trouvaient deux cas intéressants, un homme et sa femme, assez jeunes. Lui était contremaître et dirigeait des équipes dans le bâtiment. Il faisait preuve d'une grande intempérance. Il était souvent ivre plusieurs jours de suite. Il avait une apparence physique noble et agréable, mais c'était sa grande faiblesse. Il avait pris l'habitude de l'intempérance et laissé le démon de l'appétit le contrôler. Ses forces morales semblaient trop insuffisantes pour surmonter cet appétit. Sa femme était fière et aimait le monde. Tous deux étaient convaincus de l'importance de la vérité, mais n'avaient jamais fait l'expérience de la véritable religion. Je sais que ces âmes avaient besoin de Jésus, qu'elles avaient alors besoin de son aide. Autrement, elles n'auront jamais la force de vaincre le monde et les appétits corrompus, et d'emprunter le chemin de l'humble obéissance. Nous avons prié pour ces âmes, puis les avons invitées à prendre librement la parole, ce qui les fortifierait. Nous savons que le Seigneur les a réprimandées pour les attirer à lui. Récemment, deux petits-enfants sont tombés malades et sont décédés. Cela a été pour eux une terrible épreuve, mais elle a adouci leur cœur et réveillé en eux le désir de changer. Tous les deux ont témoigné, et avec une grande simplicité et le sentiment profond de leur détermination, nous devons les remettre entre les mains de Dieu pour qu'il les dirige et les guide. Il le fera s'ils acceptent de se soumettre à lui, le fidèle Créateur. Quelle terrible plaie que l'intempérance. Kettering, Angleterre, le 3 juillet 1887. Je me suis levé à 4h45 et constate qu'une autre chaude journée s'annonce. Willy est parti à Londres à 9h. J'ai parlé à l'église et aux visiteurs dimanche après-midi, à 17h. La salle avait une belle surface, mais n'était pas correctement ventilée, ce qui était très désagréable et trop chaud. J'ai pu parler avec aisance. Un certain nombre de non-croyants étaient présents. Londres, le 4 juillet 1887. Nous avons quitté Kettering vers 9h du matin. Nous avons mis 2 heures pour arriver à Londres. Nous avons à nouveau rencontré nos frères et sœurs qui devaient bientôt partir pour l'Afrique du Sud. Nous avons pris le train pour Holloway. C'est un joli village dans la banlieue de Londres. Nous nous sommes arrêtés dans une maison occupée par 2 sœurs qui donnaient des études bibliques et s'efforçaient d'atteindre les classes supérieures. Elles étaient bien situées et faisaient ce qu'elles pouvaient pour accomplir leur mission. Nous sommes passés voir la sœur Marsh, qui observe le sabbat depuis plusieurs années. Son mari est gardien de prison. Ils vivent près de la prison. La vue de tous ces détenus faisant une demi-heure d'exercice entre ces murs, surveillés de près par des officiers, était bien triste. Nous avons passé un peu de temps avec nos amis en partance pour l'Afrique du Sud et avons parlé de la façon dont la mission devait débuter et être menée à bien dans leur nouveau champ. Nous avons prié et l'Esprit de Dieu est venu parmi nous. Nous savions que c'était notre dernière rencontre. Londres, le 5 juillet 1887. Nous sommes allés en ville pour faire des courses. Puis nous avons pris une voiture et sommes allés au port pour dire au revoir à nos frères et sœurs en route pour l'Afrique. Nous n'avons pas pu retenir nos larmes en les quittant.
Londres, le 7 juillet 1887. À l'hôtel, j'ai continué à écrire sur des sujets importants et ai fait quelques courses.
J'ai eu une longue discussion avec le frère Haskell sur de nombreux aspects importants de notre travail. Le 8 juillet 1887, nous avons quitté Londres en compagnie du frère et de la sœur Ings pour nous rendre à Southampton en train. Je me suis allongé pendant la plupart du trajet et ai dormi un peu. Nous allions mettre environ 2h30 pour atteindre Southampton. Nous avons retrouvé la sœur Phipson et avons dîné avec elle. Elle vit dans un grand appartement qu'elle loue et sa mère vit avec elle. Le pasteur Haskell est arrivé par un autre train, plus tard. Vendredi soir, il a pris la parole dans la salle louée pour les rencontres. Southampton, Angleterre, le 9 juillet 1887. J'ai parlé à la petite congrégation, le sabbat après-midi. Il faisait très chaud. J'ai parlé avec aise. Nous avons eu une réunion de partage. Southampton, Angleterre, le 10 juillet 1887. Le pasteur Haskell a parlé le matin. Peu de visiteurs de l'extérieur étaient présents. Dans l'après-midi, il y en a eu davantage. J'ai pris la parole à 17h. Que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, verset 1. Le Seigneur m'a aidé à parler. Autrement, je n'y serais pas parvenu. L'assistance a écouté avec attention. Une femme est venue me voir et m'a demandé une interview pour laquelle nous avons fixé un rendez-vous. L'ensemble des conseils diététiques se trouve dans Conseils sur la nutrition et les aliments. Les ressources qui ont été sollicitées définissent le contexte européen. Arthur L. White. Faire face aux questions relatives à l'alimentation dans le bâtiment du siège central, 1887. J'ai œuvré pour mettre les choses en ordre dans ce bâtiment. Il y a une semaine, sabbat soir dernier, 2 avril, nous avons eu une rencontre avec les familles de la maison pour évoquer certains sujets en lien avec la nourriture qui doit être préparée pour les internes et l'influence qui devrait être exercée au sein des familles qui logent les pensionnaires. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi et j'ai rendu un témoignage simple et déterminé. Je m'étais attardé sur les principes généraux, mais cela n'avait pas suffi. Leur esprit était tellement rivé sur l'idée selon laquelle leur façon de faire était parfaite que ceux qui auraient eu besoin de réforme n'en voyaient pas du tout l'intérêt. Comme le prophète Nathan l'avait fait avec David, j'ai dû leur dire fermement « Tu es cet homme-là ». 2 Samuel 12, verset 7. Je puis vous assurer de la vivacité de l'émoi provoqué dans le camp. Je leur ai fait savoir que leur façon de préparer la nourriture n'était pas bonne et que vivre essentiellement de soupe, de café et de pain n'était pas la réforme sanitaire. Il n'était pas sain de faire entrer autant de liquide dans l'estomac, et que tous ceux qui se soumettaient à ce type de régime mettaient leurs reins en danger. Autant de substances aqueuses affaiblissaient l'estomac. J'étais tout à fait convaincu que beaucoup dans cette institution souffraient d'indigestion à cause de ce genre de nourriture. Leurs organes digestifs étaient affaiblis et leur sang appauvri. Leur petit déjeuner se composait de café, de pain avec de la sauce aux prunes. Ceci n'est pas sain. Après le repos et le sommeil, l'estomac est plus apte à se charger d'un repas consistant qu'après s'être fatigué à la tâche. Ensuite, le déjeuner se composait généralement de soupe et parfois de viande. L'estomac est petit, mais insatisfait, l'appétit prend largement de la nourriture liquide et est chargé. Les salades sont assaisonnées d'huile et de vinaigre. Cela fermente dans l'estomac et la nourriture n'est pas digérée, mais elle se décompose ou se putréfie. Le sang, par conséquent, n'est pas nourri, mais se remplit d'impuretés et des problèmes de foie et de reins apparaissent. Ce type d'alimentation entraîne des troubles cardiaques, des inflammations et beaucoup d'autres maux. Non seulement le corps, mais aussi la morale et la vie spirituelle sont affectés. Je leur ai dit que s'ils ne changeaient pas de régime, s'en suivraient certainement des déchéances physiques, mentales et morales. Nous devons nourrir notre corps d'aliments simples, bons et consistants pour éviter les carences dans le sang. Je me suis ensuite attardé sur l'influence autour de l'âme et sur l'importance de conversations nobles à table, ainsi qu'en toutes interactions les uns avec les autres. J'ai donc parlé de beaucoup de choses et attends maintenant qu'ils se remettent de leurs émotions avant de parler d'autre chose. Ce sont des sujets qui m'ont vraiment tenu à cœur.